Connaître pour aimer.
Aimer pour protéger.
Dans la nature. Radio Biodive.
Les actus. Les sorties. Les interviews.
Radio Biodive. L'émission qui parle de ta nature.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette cinquième émission de Radio Biodive sur Principe Actif. On est tous heureux de vous accueillir. Salut
bonjour
l'équipe.
Bonjour Alex.
Ça
bonjour
va Philippe.
Bonjour.
Et on est encore quatre pour cette émission, donc c'est super cool. Et on a un petit invité surprise aujourd'hui qui est Jean-Pierre Dulondel, qui va nous parler de la protection des busards. Et voilà, cette cinquième émission, je vous propose
qu'on... Est-ce qu'il y a un thème?
Il n'y a pas vraiment de thème cette semaine. Non, après on va parler des pics.
Piquer, collégramme.
Voilà, Instagram. Et sinon, j'ai laissé beaucoup de place à Camille cette émission. C'est elle qui va prendre pas mal de missions. Donc, on lui souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Le jeu.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous proposons un son de la nature et vous devez le reconnaître. Vous avez la durée de l'émission pour trouver une solution et à la fin de l'émission, on vous donnera la solution. Voici le son. Alors, ça n'est pas le pouillot-véloce qu'on entend, c'est l'autre son. Voilà. Vous avez l'émission pour trouver. Eh bien, maintenant...
C'est le moment du coin-coin ?
C'est le coin-coin. Alors, c'est moi qui vais commencer avec une nouvelle... En fait, vous savez qu'on a une politique sur les nuisibles. Alors, la novlangue fait qu'on ne parle plus de nuisibles, on parle des ézodes. Mais en général, ces animaux qui sont les renards, les geais, les pies, les corbeaux, les corneilles, tout ça est considéré comme ézode, c'est-à-dire espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans la nature.
Des dégâts.
Voilà.
Surtout pour les agriculteurs.
Les politiques de destruction de ces nuisibles s'avèrent complètement inefficaces. C'est une étude du muséum qui nous dit ça. Et puis, il y a un petit article de France Info qui résume cette étude. Mais en tout cas, alors non seulement c'est inefficace, mais en plus c'est très coûteux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que comparer le coût de la destruction des ézodes et le coût que ça engendrerait s'ils n'étaient pas détruits, ça coûte beaucoup plus cher de les détruire que de les laisser dans la nature. Et en plus, c'est inefficace parce que quand on les détruit, ça ne va pas réduire la population. Il y a d'autres... par exemple, si on détruit un renard, d'autres renards qui vont venir à la place. Les corneilles qui sont détruites, c'est des jeunes corneilles en général et d'autres corneilles vont arriver pour manger. Et donc, c'est complètement inutile. Donc, faudrait... Alors, malheureusement, quand on pose la question... à nos ministres, ils disent « Ah ben non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les détruit, puis on n'a pas l'intention de changer. » Mais bon, voilà, il faudrait qu'ils se renseignent un petit peu des études scientifiques. Camille, tu nous dis quoi ?
Une très mauvaise nouvelle aussi. Alors moi, je vais vous parler du cadmium. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un métal toxique qui est présent dans les engrais, donc qu'on retrouve dans l'environnement, aussi bien dans l'air, dans l'eau, le sol. Mais si ça fait autant polémique en ce moment, c'est pas par rapport à l'environnement, c'est bien évidemment par rapport à la santé, étant donné qu'on retrouve ce métal surtout dans notre alimentation dite de base, c'est-à-dire les pommes de terre, le pain, les gâteaux, les viennoiseries, les céréales, les pâtes, le riz, même dans certains légumes. Donc la liste est malheureusement longue. Dans une expertise rendue publique le 25 mars, c'est ça, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'alarme une fois de plus sur la surexposition des Français, étant donné que, selon cette étude, il y a 47,6% des adultes qui présentent déjà un niveau de cadmium dans leur organisme dépassant les valeurs toxicologiques de référence. Donc cette substance, elle est classée cancérigène, mutagène, toxique. Elle joue sur plein de maladies, bref, que des mauvaises nouvelles. Évidemment, il faut absolument réussir à réduire ces taux qui sont affolants. L'instance préconise plusieurs leviers qui sont liés à l'environnement, donc évidemment réduire certains engrais, mais aussi la modification des pratiques de culture comme l'agroforesterie ou l'utilisation de cultures intermédiaires comme le radis qui est capable de capter le phosphore présent dans les sols. Donc ce serait bien qu'on réussisse à résoudre un souci sanitaire avec de l'écologie. Donc c'est une affaire à suivre qui est actuellement en train de débattre dans l'hémicycle, manifestement.
Alors moi, je vais vous parler d'un marais. C'est un marais en Île-de-France. C'est un petit article d'un de nos journaux préférés qui s'appelle Reporter. Et ce marais en Île-de-France, c'est l'occasion de découvrir un endroit de nature qui est très favorisé. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'amphibiens. Enfin, c'est un endroit assez génial. Mais surtout de rappeler que les zones humides en France sont vraiment très utiles. Elles jouent un rôle, y compris par rapport aux inondations. Et c'est l'occasion de se dire, protégeons notre nature et puis gardons surtout nos zones humides. Qu'est-ce qui se passe à Rugles, Camille ?
À Rugles ? Ah, une très bonne nouvelle. On a le seul bassin de Haute-Normandie, enfin bassin, je dirais même piscine, qui ne possède ni chlore ni produits chimiques. Alors comment c'est possible ? Donc à Rugles, c'est dans l'Eure, hein, il y a cette piscine qui s'appelle une baignoire biologique. Donc le fonctionnement est basé sur un principe de lagunage. Il s'agit d'un système naturel d'épuration et de filtration qui est effectué en permanence par des plantes aquatiques, comme les roseaux, l'amande poivrée, etc. Donc qui traite l'eau et aspire tous les micro-organismes néfastes. Alors, pourquoi ce drôle de système ? Eh bien, les plantes remplacent, effectivement, comme je vous l'ai dit, le chlore et les autres produits chimiques que l'on retrouve dans les piscines, entre guillemets, plus traditionnelles. L'eau est évidemment naturelle puisqu'elle sort du château d'eau et il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est super pour votre peau et l'environnement. Mais pour les petits sceptiques, sachez que l'Agence régionale de la santé contrôle l'eau de cette piscine toutes les semaines, contre une fois par mois pour les piscines conventionnelles. Donc c'est une piscine écologique et on en est sûr et c'est super.
Super.
Petite pause musicale.
Bye.
bien, c'était Inside Song. Vous avez entendu ce magnifique saxophone. C'était de Guillaume Perret.
Et moi, ce mois-ci, pour un instant nature, et bah, avec Oscar, on a été en forêt. On a essayé d'aller écouter et voir le Pic Noir. Et spoiler, on ne l'a pas vu.
Je vois trois douloges.
Bienvenue dans Radio Pionnier. Je me trouve actuellement dans la nature.
On va observer les oiseaux et les enregistrer leurs chants.
Ouais, bon, on va essayer de voir si on arrive à avoir le Pic Noir. Ce serait trop cool.
Et un pic épéchette aussi.
Ouais. Et là, c'est...
Papa,
ouais.
Le pic entre le pic épéchette et le pic noir, c'est lequel le plus rare?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais peut-être le pic épéchette. Parce que le pic épéchette, il est tellement petit qu'il peut pas creuser sa loge. Tu sais, c'est quoi les loges? C'est creuses.
Oui, quand ils creusent avec leur bec.
Ouais.
Et qu'ils font de...
Alors ça c'est le tambourinage, mais piqué pêchette, il n'est pas capable de creuser sa loge dans du bois vivant. Il est obligé de trouver du bois mort, mais des arbres morts qui sont encore sur pied. Et ça, c'est très très rare. Donc du coup, peut-être qu'il est un peu plus rare que le pic noir. En tout cas, il doit être plus discret. Et on le rencontre moins souvent. T'inquiète pas. Le tout, c'est qu'on arrive. Après, on va s'asseoir et il faudra attendre sans faire de bruit.
On va essayer de les enregistrer.
Ouais, on va mettre le micro. Après, on va s'asseoir et on va attendre. Et il faut faire attention, parce que tu vois l'arbre mort qui est là-bas, là, avec le grand tronc qui monte tout en haut, qui est tout mort.
Ouais.
Et bah, le pic noir, il vient tambouriner ici. Et là-bas, derrière nous, sur le petit arbre mort qui est là-bas, là, et bah, c'est le piqué-pêche qui vient là.
Nous sommes placés à côté d'un petit arbre mort, un petit bout d'arbre mort. Ah oui, il y a un trou.
Ouais, tiens, regarde.
Oh, tout en haut, il y a un énorme trou.
Regarde là-bas, je crois que... Ah, écoute, il y a un piqué-pêche. Tu l'entends? Ouais, c'est le pic épêche. Tu le vois? Regarde avec tes jumelles. Et quelle couleur?
Je crois que c'est un pic épêchette.
Tu crois? Il est tout petit le pic épêchette, hein. Il fait la taille d'une mésange.
Le pic noir, il est tout noir. Je crois que c'est un pic épêche normal. Tu vois?
Ouais, là c'est un pic épêche, tu vois. On voit bien les... Il a deux grosses taches blanches sur le dos. Il a les fesses rouges, alors que le piqué-pêchette...
Moi, je vois pas ses fesses.
Il va être tout petit, et il va avoir que des traits blancs sur le dos. Il va pas avoir de taches blanches, il va avoir que des petits traits.
D'accord.
Et le mâle, il va avoir une petite tache rouge sur la tête, alors que la femelle, elle l'a pas.
Je crois qu'il est pas...
Oh. Pas de bruit. Où est-ce qu'il est? Alors ça, toi... Ça c'est le... Non, ça c'est le piqué pêche aussi, je pense. Bouge pas. Est-ce que tu sais pourquoi ils tambourinent les piques?
Pour marquer son territoire.
Ouais. Alors, le tambourinage, vu que les piques ils savent pas bien chanter, bah ils tambourinent. Ils cherchent une branche creuse qui résonne bien et ils tambourinent.
Là, il y a un trou de loge encore.
Ouais.
Attends, je vois... trois trous de loge. Un pour manger. Non, là, un, deux. Un. Je vois trois trous, c'est pour des loges.
Ouais.
Et six, c'était pour manger.
Et tu vois, dans cette forêt, il y a plein de hêtres. Et le pic noir, il aime bien les hêtres pour faire ses loges.
Par contre, on a de la chance d'habiter si près. Mmh.
Et regarde là, c'est rigolo. Sur l'arbre juste là, il y a un gros champignon qui a poussé juste au-dessous du trou de la loge là, juste à côté, tu vois. Ça fait comme un petit toit. Le pic noir, il est super grand, il fait la taille d'une corneille.
Quand même.
Ouais. Et hier, quand je l'ai vu, il est arrivé de par là et hop, il est venu sur le trou. Là. Hop.
C'est quoi?
C'est le pic épêche. Ça, on dirait un singe. Ça fait ouh ouh ouh. Ça, c'est un pigeon colombin. Et tu sais quoi? Il utilise les loges de pic noir pour faire son nid. Ouais, c'est ça. Et si on n'avait pas de pic noir, eh ben, on n'aurait pas forcément de pigeon colombin dans cette forêt. C'est rigolo. Pigeon ramier.
Pigeon ramier, on en a beaucoup chez nous.
Ouais. Il dit, je suis un pigeon. Je suis un pigeon.
Sauf que ça, on sait déjà.
On entend la maison charbonnière. Le Puyo Velas.
Ouais. Ça vient de par là.
C'est pas loin, là.
Pourquoi?
Il a piqué pêche. Tout près. Ah, il est là-bas, je le vois. Il est sur l'arbre là-bas, il bouge pas. Ah, là, c'est le tambourinage du pic.
C'est bon, je l'ai.
Tu l'as?
Je l'ai.
Alors tu vois, le tambourinage du piquet pêche, il est très court. Alors que celui du piquet pêchette, il est beaucoup plus long. Ça tape vite, hein? En fait, les pics, ils ont une langue super longue, tellement longue qu'elle fait le tour de leur crâne. Et ça leur permet, en fait, d'amortir les chocs de la boîte crânienne.
Je trouve plus.
Alors, regarde à l'œil nu, on voit encore là-bas. T'as vu, il a bougé la tête.
Vas-y, c'est bien là-haut.
On voit bien avec les jumelles.
Ouais. Avec la longue vue, ce sera encore mieux.
Ouais, mais c'est pas pratique. Il est monté un peu plus haut.
Où ça?
Il est sur le même tronc, mais il est passé derrière, il est remonté un peu.
peut-être qu'il va essayer de te frapper ailleurs.
Tu le vois.
Ah, il est revenu.
On voit pas très bien, mais on voit.
Je le vois plus. Il va peut-être se remettre du bon côté.
Du côté où on observe, quoi.
Ouais, moi je vois sa tête.
T'as vu?
Ouais, il est encore là, je le vois.
Ah,
oh, ouais, il est un peu plus derrière, on le voit moins bien, mais il est encore là. Et il semblerait aussi que c'est les animaux, les piques, qui ont les paupières les plus musclées du monde animal. Ils tapent tellement fort sur le tronc que s'ils n'avaient pas des paupières hyper musclées, et ben les yeux ils sortiraient de leurs orbites. T'imagines?
Ouais. Ils seraient aveugles.
On a les 5 espèces qu'on peut voir en Normandie. Trop bien.
Et ben voilà, ça prouve que dans la nature, on peut pas toujours voir ce qu'on prévoit à l'avance. Là, on avait prévu le pic noir et le pic épêchette, mais on les a pas vus, on les a pas entendus, mais on a eu une super séance avec le pic épêche et le pigeon colombin. Donc voilà, mais on vous réserve une petite surprise, le petit son de la nature de la fin, on reparlera des pics. Et ben c'est le moment de l'espèce du mois avec Camille et Philippe.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est un papillon.
Ah, super ! Enfin une petite bête !
C'est le papillon citron, un de nos messagers du printemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son nom ?
Bien sûr ! Eh ben, citron, à votre avis ! C'est sa couleur, hein ? Il a la couleur du citron. Son nom latin, c'est Gonepteryx rhamni. Alors, c'est du latin, mais qui est inspiré du grec. Gonepteryx, gonia, c'est l'angle, et pteryx, c'est les ailes. Pourquoi ? Parce que ce papillon, il a des ailes avec des petits angles, des petites pointes. Voilà, ça décrit un petit peu son... Voilà. Et puis rhamni, ben, c'est tout simplement les ronces. En anglais, on l'appelle brimstone butterfly. Brimstone, c'est tout simplement le soufre. Eh ben, devinez pourquoi ? C'est un peu la même couleur que le citron, non ? Camille, est-ce que tu peux nous parler de sa famille ?
Oui, c'est un papillon de jour, on appelle ça les rhopalocères. Alors ce mot compliqué, ça vient du grec ancien. Oui,
encore du grec.
Qui vient de rhopalon, c'est massu, et keras, qui peut signifier soit corne, soit antenne. Donc ça fait clairement référence à sa morphologie, vu que tous les rhopalocères ont des antennes terminées en forme de massue. Le citron d'ailleurs est assez proche des pierides, vous savez, ces papillons blancs que nous voyons souvent dans nos jardins.
Tu peux nous dire à quoi il ressemble ?
Oui, alors comme tu l'as déjà dit...
À part la couleur.
Ben voilà, il est jaune et il a des ailes avec des petites pointes anguleuses. Il mesure en moyenne entre 40 et 60 mm d'envergure. Alors, il y a un petit dimorphisme sexuel, donc c'est la différence entre les mâles et les femelles. Donc le mâle est de couleur assez jaune vif, la femelle est plus terne. Par contre, les deux ont des points orangés sur les ailes. Le dessous des ailes est un peu plus verdâtre chez les deux, ce qui fait qu'au repos, les ailes fermées, on peut les confondre avec une feuille. Son corps est noir, il est recouvert d'un duvet. Est-ce que tu peux nous parler de sa longévité, qui est exceptionnelle?
Effectivement, c'est le Mathusalem des papillons. L'adulte peut vivre jusqu'à un an, ce qui est exceptionnel pour les papillons. Les papillons, des fois, c'est quelques semaines. Lui, il dure un an. Et du coup, il est obligé de passer l'hiver au chaud. Enfin, au chaud, il se cache pour faire ça. Mais contrairement à d'autres papillons qui hibernent dans des caves ou dans des grottes, lui, il passe l'hiver dans la nature, directement sur le sol ou sous des feuilles. Et il peut même être recouvert par la neige et résister à des températures de 20 degrés. Moins 20, bien sûr, moins 20 degrés. Et quelquefois, il est recouvert par la neige et il reste quand même vivant. Et au printemps, il se réveille. Et c'est un des premiers papillons, c'est le premier papillon qu'on voit. C'est un peu comme les hirondelles, ils nous annoncent le printemps. Mais c'est sûrement pour profiter des primes vertes.
Effectivement, comme beaucoup de papillons, ils se nourrissent du nectar des fleurs. Et oui, les primes vertes sont parmi les premières à offrir ce liquide sucré grâce à leur floraison. Mais bien évidemment, ils profitent de beaucoup d'autres fleurs tout au long de l'année.
Et est-ce que c'est à dire que c'est un profiteur ?
Non, pas du tout. C'est un arrangement de bon voisinage, une coopération, presque une symbiose en fait. En échange de sa nourriture, le citron transporte le pollen d'une fleur à l'autre. C'est donc un pollinisateur essentiel à la reproduction des plantes à fleurs de nos prairies.
Puisqu'on en est à la reproduction, on pourrait parler de sa reproduction à lui. On l'a dit, il se réveille au printemps et dès son réveil, il se précipite sur les primes vertes et les autres fleurs. Mais le mâle se précipite aussi sur les femelles qu'il voit, il leur court après. Et tout ça pour s'accoupler. Les œufs sont pondus à la fin du printemps sur des bourgeons de nerprin ou de bourdaine. Ce sont des petits arbustes qui ont des feuilles que les chenilles aiment bien manger. Et après une dizaine de jours, les petites chenilles, qui sont vertes, naissent.
Donc si on revient un moment sur la nutrition, on peut dire que les chenilles n'ont pas le même menu que les parents. Elles grignotent les feuilles de nerprin et de bourdaine.
Exactement. Et plus elles mangent, plus elles grandissent.
Alors attends, j'ai une question, parce que comment elles font? Puisque les papillons, comme tous les insectes, ont une carapace rigide, c'est leur squelette qui est externe et fait de cuticules. Comment ça se passe?
Eh bien, elles sont obligées de changer de carapace. Ça s'appelle la mue. Il y a 4 mues qui font passer les chenilles de la toute petite chenille qui fait à peu près 1 mm de long jusqu'à la grosse chenille qui fait presque 3 cm, plus de 3 cm. Et quand elle a atteint ce stade-là, la grosse chenille devient un peu plus paresseuse, elle se fixe, elle va se fixer sur un support, et là, elle va devenir immobile et elle va se transformer en ce qu'on appelle une nymphe ou une chrysalide. Et c'est la chrysalide qui va subir la métamorphose. La métamorphose, c'est-à-dire que cette chenille, qui ne ressemble pas du tout à un papillon, elle va acquérir des ailes, elle va acquérir des pattes. Et quand tout est prêt, quand la métamorphose est faite, le papillon adulte ailé et sexué va pouvoir sortir de cette carapace, qui était celle de la nymphe. Et ce papillon adulte, on l'appelle l'imago. Ce papillon vole, déguste le nectar, accumule des réserves jusqu'à l'automne, avant de trouver un coin pour hiberner. Mais où est-ce qu'on peut le trouver, ce papillon, Camille ?
Eh bien, comme tu viens de le dire, pour hiberner, il lui faut un endroit tranquille. La forme et la couleur de ses ailes lui permettent de se cacher et d'hiverner dans la végétation, comme le hou, les ronces ou encore le lierre, sans être dérangé ou prédaté. C'est ce que l'on appelle le mimétisme, se fondre et se confondre dans son environnement pour devenir difficile à voir. Alors si c'est nécessaire, les citrons peuvent se rassembler dans les forêts et entamer une migration vers des zones propices à la ponte, c'est-à-dire plutôt vers les lisières de forêt ou les zones humides, pour trouver leurs plantes hôtes. Par conséquent, les migrations ne sont pas obligatoires et peuvent varier en intensité et en distance selon, évidemment, les années et les conditions de vie. Il aime tous les endroits où la nature est préservée et où il peut trouver des fleurs avec du nectar, hein, c'est-à-dire les clairières, les prairies, les jardins fleuris et même des friches. Bien sûr, pour les chenilles, il faut un endroit avec les plantes hôtes, c'est-à-dire des nerprins et des bourdaines.
Bah oui, il faut bien qu'elles mangent.
C'est ça.
Et côté répartition, on peut le trouver en France, où ça ?
Dans tous les départements de France métropolitaine, toute l'Europe aussi, sauf très au nord et au-dessus de 2500 mètres. l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elles sont en danger? Est-ce qu'il y a des choses qui les menacent?
Ah ben, elles ont des prédateurs, évidemment. Vous avez déjà vu des mésanges manger des chenilles? Elles se font un petit régal, hein. Et c'est bien pour notre jardin, d'ailleurs. Donc, elles ont des prédateurs, parmi les oiseaux, mais aussi les araignées, les lézards, les mantes religieuses ou les guêpes. Alors, il y a une chose rigolote, ça s'appelle thanatocénose. C'est, les papillons ont un moyen de défense qui est assez curieux. Quand ils sont menacés, qu'ils voient un oiseau se rapprocher son bec un peu trop près d'eux, ils font le mort et ils tombent dans l'herbe. Et du coup, souvent, ça marche et les oiseaux se désintéressent du papillon. En réalité, le danger principal, vraiment ce qui met en danger ces papillons, c'est plutôt la pollution, et particulièrement les pesticides. Bah, parmi les pesticides, il y en a un, on appelle ça insecticide. Devinez à quoi ça sert. Hein, les papillons, ils s'en sortent pas. Faut pas oublier que, ben voilà, faut éviter les pesticides dans les champs, mais aussi dans les maisons. Leur statut par rapport aux espèces et aux classements, on dit qu'ils sont LC, c'est-à-dire qu'il y a c'est une préoccupation mineure en France et en Europe. Mais tout en étant préoccupation mineure par rapport aux insectes, il ne faut pas oublier que les insectes ont vu leur nombre ou leur masse diminuer de 75% en 30 ans en Europe. Pour finir, Camille, tu peux nous faire une petite proposition?
Oui, si vous êtes curieux de nature, vous pouvez venir dans notre local au Val-David. Nous avons une bibliothèque où vous pourrez retrouver plein de livres, notamment concernant les papillons. Et vous pourrez notamment emprunter le numéro 96 de la Hulotte qui dédie 27 pages uniquement aux papillons citrons.
Merci Camille.
Merci Philippe.
Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable. Petite fleur en plein désert, et nous voilà dans cette fable, enfant de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, petite toux, petite fièvre de rien du tout. C'est ce que les humains te disent pour s'affranchir de leurs bêtises. Nous avons brisé l'équilibre quand nous nous sommes accaparés tout ce qui respire et qui vibre sans jamais penser à l'après. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Gaïa, 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 Gaïa. Se pourrait-il que l'on se souvienne, tu es l'horizon et le ciel, l'eau que l'on boit à la fontaine, notre sol et notre sel. Pour toi je ne m'en fais pas tant, tu en verras bien des printemps, car il pleuvra comme il a plu,
quand les humains auront vécu. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres.
C'était HKL et Saltimbanque, Petite Terre. Vous êtes toujours sur Radio Biodive, sur Principe Actif, avec Philippe, Camille, Alex et Joël.
Eh bien, maintenant, nous allons recevoir un ami, qui est Jean-Pierre Dulondel. C'est le moment de l'interview.
Bonjour. Et bah aujourd'hui, on a le plaisir d'être au téléphone avec Jean-Pierre Dulondel, qui est bénévole à la LPO et plus précisément pour le groupe Buzard. Salut Jean-Pierre.
Salut Jean-Pierre.
Salut Alex, salut Philippe. Bonjour à tous et bonjour aux amoureux de la nature.
Eh bah écoute, merci d'être avec nous. Et on avait un petit peu envie de t'interviewer sur la protection des buzards. On sait que tu es très actif dans le département de l'Eure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Peut-être pour commencer.
Oui, bien sûr, sans problème. Bien écoutez, les buzards, on a principalement trois espèces de buzards présents sur le département. Le buzard Saint-Martin, qui est le plus courant, que l'on rencontre le plus souvent, à savoir avec à peu près une trentaine, normalement on a 300 couples sur la Normandie, mais sur le plateau du Neubourg et sur l'Eure en règle générale, on se retrouve avec peut-être une cinquantaine de couples. Mais c'est le maximum que l'on doit avoir. Après, on a le buzard cendré, mais le buzard cendré, ce serait plutôt dans les plaines vers l'Eure et Loire, en dessous de Saint-André, par là. Parce que nous, là, sur le plateau du Neubourg, jusqu'à présent, on a eu, depuis, 15 ans que je fais de la protection, j'ai rencontré seulement deux fois des nidifications, dont un qui a échoué et un sur lequel on a vu trois jeunes à l'envol.
Oui,
et
donc puis après, une espèce assez rare,
on a du buzard des roseaux, mais le buzard des roseaux, lui, est beaucoup plus sur le marais vernier.
Ouais, c'est une espèce qu'on va retrouver dans les marais plutôt. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, on va principalement parler du buzard Saint-Martin, je pense, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? C'est un oiseau qui est moins le mâle, qui est assez reconnaissable normalement.
Oui, tout à fait, parce que le buzard des roseaux, le buzard Saint-Martin, pardon, le buzard Saint-Martin est un oiseau qui est un rapace déjà, faut le savoir, qui est un oiseau qui va chasser essentiellement sur les plaines, le long des chemins qui passent à travers les champs de blé, les champs d'orge. Et donc le mâle, lui, est plutôt de couleur bleu-gris avec le bout des ailes noires. Donc ça, c'est très très facile à reconnaître. La femelle, par contre, elle est un petit peu plus difficile à différencier parce qu'en fait, elle ressemble à une buse, plus petite en silhouette. Par contre, la marque très reconnaissable chez la femelle buzard Saint-Martin, c'est qu'elle a une tache blanche, ce qu'on appelle le croupion, ce qui correspondrait chez nous un petit peu au lombaire, entre le bas du dos et la queue, hein, chez la femelle busard.
Le mâle voilà. aussi a le croupion blanc, je crois. Hein.
Pardon ?
Le mâle aussi a
aussi, le oui, blanc. Mais on le voit moins du fait de sa couleur, hein, bleu qui tire un peu sur le blanc, hein, bleu-gris, on le voit moins. Hein. Puis ça dépend comment ils sont orientés pendant le vol.
C'est sûr.
Voilà. Donc, ce sont donc le busard Saint-Martin, effectivement, que l'on rencontre le plus souvent. Donc, il faut savoir que c'est un oiseau qui niche essentiellement dans les céréales, à savoir le blé.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'il doit être protégé.
Ce sont des oiseaux qui sont protégés, effectivement. Mais le gros problème, si vous voulez, c'est que ce qui se passe, c'est que les jeunes oiseaux, souvent, ne sont pas souvent volant au moment de la moisson.
Ah, t'es en train de nous dire qu'il niche carrément au sol, en fait, là.
Et voilà, il niche au sol, hein, contrairement, par exemple, à la buse, buse variable, hein, qui va nicher en hauteur dans les arbres. Les busards nichent au sol.
Ah ouais, donc il faut qu'ils se dépêchent pour pas passer dans la moissonneuse batteuse, quoi.
Voilà, tout à fait. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a monté au niveau de la LPO Normandie, un groupe de bénévoles, hein, donc on est à peu près maintenant une bonne vingtaine de bénévoles, à sillonner donc les plaines céréalières. On va commencer la campagne là à partir de à peu près du début avril, et ça va se terminer vers le 15 août. Hein. Et donc notre mission en fait, c'est de rechercher les nids. Alors là, ça demande pas mal de temps, pas mal de patience. Hein. On se place, si vous voulez, à différents points stratégiques dans les plaines, surtout en hauteur pour avoir un maximum de vue d'ensemble des plaines, hein, sur un rayon, je dirais, à 360 degrés. Et à partir de là, dès qu'on commence à trouver un mâle qui se balade avec une femelle, parce qu'en fait, c'est pas tellement le mâle qui compte, parce que le mâle va tourner à peu près à 5 km autour du nid potentiel. Ce qu'il faut, c'est trouver la femelle, parce que la femelle, elle, s'éloigne beaucoup moins du nid. Hein. Et là, dès qu'on a une femelle, c'est elle qu'il faut suivre avec insistance, parce que c'est elle qui va nous donner l'indication du nid. Elle va sortir du nid, elle va se reposer, il va y avoir les apports de proie éventuellement au nid, quand il y a les jeunes. Il y a le rechargement du nid quand elle a besoin de ramener des matériaux aussi, parce que des fois, il faut savoir que le nid est fait au sol avec de la paille, des branchages très fins, hein, parce que c'est des oiseaux qui ne sont pas très forts en puissance, hein, de lever. Donc ils mettent ça au sol, mais avec le temps, le nid arrive à s'affaisser, et ce qui fait que lorsqu'on a des orages, les œufs peuvent être éventuellement, je dirais, refroidis par l'humidité qu'il peut y avoir dans le sol. Donc la femelle va recharger son nid pour rehausser en fait les œufs par rapport au sol. Voilà.
Et alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises ce que font les bénévoles pour protéger, une fois qu'on a trouvé le nid, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors voilà, dès que l'on a trouvé le nid, il faut prévenir. Alors déjà, on cherche les cantonnements, c'est-à-dire l'endroit, le champ dans lequel l'oiseau va avoir fait son nid. Une fois qu'on a identifié l'emplacement, déjà, on prévient les services de l'État, à savoir la DDTM, hein, de l'heure.
Ah oui, hein. On travaille avec la DDTM, c'est
voilà, tout à fait.
Direction départementale des territoires et de la mer.
Voilà, tout à fait. Hein. On a un intervenant, hein, qui s'appelle Anthony Lepenec, qui lui est chargé, si vous voulez, de prévenir l'agriculteur, l'exploitant, hein, lui dire, attention, vous avez une espèce protégée dans votre champ, vous devez faire en sorte de le protéger et de laisser les gens de la LPO Normandie, les intervenants, les bénévoles, entrer dans le champ pour mettre une cage, enfin un parc. Hein. Maintenant, on met des parcs de 3 mètres sur 3 mètres, ce qui permet, quand il y a des couvées, par exemple, importantes, de voir entre 5 et 6, c'est rare, hein, mais ça arrive, on peut avoir 5 à 6 jeunes, hein. Mais la moyenne, c'est 3 à 4. Hein. Mais on peut avoir des couvées importantes. On met donc un parc de 3 mètres sur 3 mètres pour pouvoir protéger le nid. Quand la moissonneuse passe, elle tourne autour du nid, hein, autour du parc, sans risquer en fait de mutiler ou de tuer les jeunes busards.
D'accord.
Oui, c'est à un moment donné, ils peuvent commencer à bouger, avoir peur et se déplacer dans le champ. Le parc, c'est pour leur permettre de pas s'écarter du nid, que après les parents puissent les retrouver, quoi.
Tout à fait. Hein, parce que avant, on utilisait ce qu'on appelle des cages traîneaux. Hein, c'était des cages qui faisaient un mètre de haut, mais on s'était aperçu que quand les moissonneuses passaient un peu trop près, les oiseaux étant effrayés, ils trouvaient le moyen d'escalader le grillage et se retrouver dans le champ. Et là, ils pouvaient éventuellement se trouver écrasés, hein, voire mutilés. Maintenant, en mettant des parcs de 3 mètres sur 3 mètres, et en plus, on a augmenté la hauteur du grillage, on met des grillages d'1 mètre 50 de haut. Et là, l'oiseau, lui, est déjà plus en sécurité, hein, même s'il est, je dirais, prêt à l'envol, parce que des fois, on a des oiseaux, ils sont à une ou deux journées prêts à l'envol avant que la moissonneuse passe. Eh bien, ça évite que l'oiseau sorte trop de la cage, il se cache dans le blé, et ça se passe relativement bien.
Et ça, c'est dans le cas où la nichée est trop tardive et qu'ils ne seront pas capables de voler avant la moisson, mais ce n'est pas le cas à chaque fois. J'imagine que des fois, les nichées peuvent se débrouiller toutes seules et réussir à partir avant la moisson.
Alors, oui, cela arrive, mais malheureusement, on se rend compte là, d'année en année que, par exemple, l'année dernière, sur l'année 2025, on a eu 50% des nids trouvés. Hein, on avait trouvé 23 nids. On a dû protéger 11 nids parce que c'était des couvées qui étaient trop tardives. Les jeunes n'étaient pas prêts à l'envol.
Ouais, et puis les moissons sont de plus en plus tôt chaque année.
Voilà, parce qu'on a le réchauffement climatique qui vient entrer en ligne de compte. Donc ça pose un petit peu des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin en plus de plus en plus de bénévoles pour nous aider, parce que déjà les surfaces céréalières sont très importantes. Et puis il faut tourner pour trouver le maximum d'oiseaux, quoi. Okay. Sinon c'est des oiseaux qui sont condamnés à disparaître si on intervient pas suffisamment tôt, quoi.
Donc concrètement, tu as besoin de bénévoles, donc il y a un numéro où on peut mettre sur notre site, on mettra toutes les coordonnées, mais j'imagine que vous recherchez tous les ans des bénévoles pour déjà chercher les oiseaux, et puis après mettre en place une cage, ça demande de l'expérience, mais déjà repérer les oiseaux, je pense que vous cherchez des bénévoles.
Oui, toujours, oui. Au contraire, plus on sera nombreux, mieux ce sera, parce que il y a des secteurs comme le Vexin, par exemple autour des Andelys, on avait un bénévole qui avait commencé à monter une équipe, malheureusement, qui a dû se retirer, et donc il n'y a plus d'équipe sur le Vexin. On a sur la partie Bourtroude, au nord du Roumois, où là effectivement c'est pareil, on n'a personne. Hein. Donc il faut qu'on arrive à trouver du monde aussi, parce qu'il y a des buzards aussi par là. Et donc il faut du monde. Donc on peut éventuellement contacter soit directement sur le site de la LPO Normandie, notre blog. Hein, puisqu'on a un blog sur la protection du buzzard où on peut retrouver notre action.
Ok, on mettra ça sur notre podcast.
Et sinon, on peut nous appeler soit directement au 06 14 88 22 70, qui est mon numéro personnel. Il n'y a pas de souci, c'est mon numéro qui sert aussi pour les buzzards.
On le mettra aussi.
Ah. Et puis, il y a le numéro de la LPO directement, hein, qu'on peut appeler. Là, je ne l'ai pas sous les...
On mettra tout sur notre site. Écoute, Jean-Pierre, on te remercie. On vous souhaite bon courage pour cette saison qui va commencer là.
Oui.
Et moi, je sais que les buzzards sont déjà remontés, parce que c'est une espèce qui vit en Afrique l'hiver. Et ils sont déjà remontés. Et on les voit déjà. Donc,
oui, ils commencent à y avoir des remontées de mâles. Alors, il faut savoir que le Saint-Martin, il est assez sédentaire en France. Hein. C'est surtout le cendré et le buzzard des roseaux qui a tendance à migrer, mais le Saint-Martin, lui, est assez sédentaire. On a quelques buzzards Saint-Martin qui passent l'hiver, mais c'est ceux qui étaient au nord qui sont redescendus chez nous, et les nôtres étaient redescendus vers la Loire. Hein.
Ok,
en tout cas, c'est super beau oiseau. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Et à bientôt autour d'un champ. Salut.
À très bientôt, les amis. À très bientôt. Et bon week-end à tous les jours, dans la nature.
Salut. Après ce bel échange avec notre ami, eh bien, c'est le moment des sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, on commence en beauté avec le lancement du nouveau programme des animations Découvrez la nature dans l'heure le samedi 4 et dimanche 5 avril à Harcourt, où vous pourrez notamment venir rencontrer les salariés bénévoles de l'ASSO NR présents à cet événement. Toujours dans la thématique des DNE, je vous propose deux animations. Le samedi 11 avril à 14h, partez avec le conservatoire sur les rives de Seine à Fatouville-Grestin pour découvrir les habitants méconnus de la mare. Et si vous préférez plutôt les milieux terrestres, vous pouvez tenter l'aventure du coteau sans dessus-dessous le 25 avril pour découvrir la faune et la flore sur le coteau avec un botaniste du conservatoire, puis vous faufiler sous terre pour découvrir la géologie et la faune particulière qui se trouve sous nos pieds. Retrouvez toutes les animations sur le site internet lanaturedansl'heure.fr. Autre salle, autre ambiance, le 9 avril à 18h30 au Val David, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les laridés. Ce sont les mouettes, goélands et autres oiseaux du bord de mer. Le samedi 18 avril et samedi 25 avril, de 10h à midi, partez à la découverte de la réserve ornithologique de Pauze avec un guide ornithologique pour observer les oiseaux d'eau. Vous pouvez retrouver toutes les sorties et infos sur le site de l'émission et si vous souhaitez faire la promo de vos sorties nature, vous pouvez nous contacter. On vous demandera juste de faire un petit enregistrement qu'on diffusera à la prochaine émission.
N'hésitez pas parce qu'on n'en a pas encore eu. Merci Camille. Et bah, c'est le moment de passer au conseil de lecture avec Joël à Jingle.
Eh bien, le livre que je vous présente aujourd'hui et de ceux que j'appelle « livres qui font du bien ». Il s'agit du livre de l'auteur polonais Stanisław Lubianski, « Le parti pris des oiseaux ». C'est un livre à aborder comme une balade à travers différents thèmes proposés par l'auteur. La naissance de sa passion pour les oiseaux, ses références, ses choix de voyage, toujours liés à l'ornithologie, et une multitude d'observations et d'anecdotes liées au monde des oiseaux. Il nous promène donc dans ses réflexions et aborde, entre autres, des références à des œuvres littéraires, picturales, cinématographiques ou musicales. Des réflexions sur l'état de notre environnement et la résilience de la nature, sa participation à des séances de bagages dans une station ornithologique, les différences entre photographes et ornithologues, la difficulté à concilier biodiversité et urbanisme. Même si l'ambiance générale du livre est plutôt rassurante et positive, l'auteur n'oublie pas d'évoquer tous les problèmes qui existent, pollution, destruction des habitats, disparition d'espèces, etc. L'auteur aborde les choses de façon objective, sans acrimonie, mais avec clarté. Pour illustrer son propos, il cite souvent quelques anecdotes amusantes. Savez-vous, par exemple, comment Ian Fleming a baptisé, pourquoi Ian Fleming a baptisé 007 du nom de James Bond ? C'est tout simplement le nom d'un ornithologue réputé des Caraïbes qui avait fait un guide « Birds of the West Indies » et Ian Fleming avait trouvé son nom intéressant. Connaissez-vous aussi le « Birding Compulsive Disorder » qui est une focalisation excessive sur les oiseaux, qui d'ailleurs touche beaucoup d'ornithologues. C'est pour ça que, quelquefois, on les voit s'interrompre au milieu d'une conversation pour écouter ou regarder autour d'eux un oiseau qui passe. Ça donne quelquefois lieu à des coups de frein brutaux de gens qui regardent les oiseaux et qui s'arrêtent rapidement. Certains autour de cette table se sentiront un peu concernés. Les ornithologues aussi sont habitués à repérer les chants d'oiseaux dans les films, et surtout d'ailleurs ceux qui ne vont pas, parce que quelquefois ça ne correspond pas forcément à l'endroit ni au moment. Il nous raconte aussi par exemple comment Mozart, en traversant un parc à Vienne, a entendu un oiseau siffler une mélodie qu'il venait de composer quelque temps auparavant, mais qui n'avait jamais été diffusée. Il a pensé que l'oiseau l'entendait siffloter en traversant le parc régulièrement et qu'il avait fini par reproduire ce chant. Donc ce livre contentera l'ornithologue comme le néophyte. C'est un hommage à la nature qui nous invite et nous encourage à nous sentir pleinement en faire partie. Regarder, contempler, entendre, écouter, sentir, éprouver, toucher, goûter, tous les sens sont sollicités comme on le découvre au long des chapitres. De plus, cette découverte du monde est accessible à tous, quels que soient ses moyens, niveau de connaissance ou appétit de connaître. En conclusion, on peut dire que ce livre est comme une bible où l'auteur évoque au fil des pages toutes ses réflexions, expériences, connaissances. Cela fait un ensemble qui peut sembler un peu décousu parfois, mais qui nous transporte dans tout un tas d'univers, d'ambiances, et qui, au final, nous donne une approche globale de ce qui peut être un passionné de la nature en général, et des oiseaux en particulier. Sa lecture pourrait même inspirer cette pensée, Cessez de courber l'échine devant vos smartphones. Redressez-vous plutôt pour admirer ce que la nature nous donne. En plus, ça rime.
Merci Joël. Effectivement, je me suis senti concerné dans plusieurs exemples. C'est le moment de donner la réponse à notre petit jeu.
On va réécouter.
On va la réécouter, bien sûr.
Alors, vous avez entendu ce rire ? Ce rire moqueur ?
Ce ricanement ?
Ce ricanement, eh bien, c'est le pivert. Alors, les Normands l'appellent quelquefois le pleu-pleu, parce qu'il est censé faire arriver la pluie, mais c'est
puis parce qu'il fait pleu-pleu-pleu-pleu-pleu-pleu.
Ouais, il pleut jamais en Normandie, de toute façon.
Non, jamais. Il pleut que... On va passer à la suite. écoutez, le jeu c'est fait. C'est de quoi on va parler la semaine prochaine, le mois prochain.
Mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ?
Le mois prochain. Je sais pas. On va parler de quoi, Philippe ?
Ah bah ce sera une surprise.
C'est une surprise. En fait, on n'a pas encore travaillé sur le sujet, mais peut-être qu'on parlera du blaireau, peut-être qu'on ira faire une petite nuit dans la nature,
des jardins aussi.
Ah ou des jardins.
Ah ouais, comment avoir de la biodiversité dans son jardin ? Enfin, vous le verrez.
Si jamais vous avez des idées à nous proposer aussi, n'hésitez pas à nous solliciter via les commentaires du site du podcast, de l'émission, parce qu'en fait, on n'a pas de commentaires. Donc, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous solliciter sur le site de l'émission.
Eh bien, c'est le moment des remerciements. Il faut qu'on remercie déjà tous les présents. Merci Alex, merci Camille, merci Joël, merci Damien. Et puis, il faut aussi qu'on remercie les petits jeunes qui nous ont fait notre musique.
Clotaire et Aliénor.
Exactement. Et puis, Jean-Pierre Dulondel aussi.
Et bien sûr. Et ça va être le moment de laisser le mot de la fin à la nature. Et pour ce mot de la fin, figurez-vous qu'on retourne dans la même forêt qu'on a été avec Oscar. Et on n'avait pas réussi à entendre le pic et pêchette et on n'a pas vu le pic noir non plus. Mais là, on vous a fait du coup une petite ambiance sonore où on entend très bien le tambourinage du pic et pêchette, le tambourinage du pic et pêche, le chant du pivert et aussi le pigeon colombin. Au mois prochain et profitez de vous balader dans la nature.
Salut.
Salut, salut.
Salut.
Salut, bonne balade.